Deutsche Welle Carrefour Europe.
Bonjour, Londres a fait un pari risqué en promettant un référendum sur l'Europe d'ici 2017. Nous y revenons dans un instant. Et puis, ces produits chimiques qui nous entourent, l'Agence européenne de la sécurité sanitaire vient de publier un rapport alarmant sur cette question. Ce sera l'entretien de cette édition. Enfin, notre reportage nous conduira en Irlande où la politique d'austérité porte ses fruits tandis que la population commence à être exaspérée par les coupes budgétaires. Vous écoutez Carrefour Europe, le magazine européen de la rédaction en français de la Deutsche Welle, et c'est parti dans quelques secondes. Je vous l'annonçais donc à l'instant, le Premier ministre britannique David Cameron a fait un pari risqué sur l'Europe. Dans un discours fort attendu et maintes fois repoussé, celui-ci a annoncé qu'il organiserait bien un référendum sur le maintien ou la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, date de la consultation 2017. D'ici là, il y aura en 2014 le vote sur l'indépendance de l'Écosse. Il y aura surtout en 2015 les élections législatives en Grande-Bretagne. Il y aura ensuite, si tant est que David Cameron remporte ces élections, 2 années de négociations avec Bruxelles jusqu'au référendum. Ainsi, le grand marchandage se profile. David Cameron semble dire à ses partenaires européens « Si vous voulez que le Royaume-Uni reste membre de l'Union européenne, alors il va falloir faire des concessions pour nous garder. » Sans cela, souligne David Cameron, il se pourrait bien que le peuple britannique vote non au référendum en 2017. Vous voyez qu'on n'est pas loin du chantage. Les concessions réclamées par Londres concernent une liste de politiques que le gouvernement britannique souhaite rapatrier parmi ses compétences, ainsi l'emploi et le social, l'environnement, la justice, la police et la politique régionale. Le Royaume-Uni ne restera donc au sein de l'UE que si ses intérêts sont protégés. Pour cela, cela doit passer par une Europe à la carte, un grand menu dans lequel nos amis britanniques choisiront ce qui leur plaît et rejetteront le reste. Autant dire que les partenaires européens, Paris et Berlin en tête, ont réagi froidement. Paris a dit qu'il serait prêt à dérouler le tapis rouge à tous les hommes d'affaires qui refuseront de rester dans un pays qui aura quitté l'Union européenne. Et oui, dans une attitude moins polémique, le ministre allemand des Affaires étrangères Guido Westerwelle a rappelé que l'Europe ne pouvait pas se faire à la carte. Et la chancelière Angela Merkel a martelé que les autres pays avaient aussi leurs propres intérêts et que si l'Allemagne souhaite que le Royaume-Uni reste au sein de l'Union, ceci ne se fera pas à n'importe quel prix. Voilà pourquoi je vous disais au début de cette chronique que David Cameron fait un pari risqué dans lequel il a beaucoup à perdre, à commencer par le pouvoir. Mais au moins, faut-il lui rendre hommage, car il pose une question essentielle, celle de la démocratie. Voulez-vous ou non rester au sein de l'Union européenne ? C'est la question à laquelle devront répondre les Britanniques. Avec tous les risques, bien entendu, que comporte un référendum, les Français le savent bien, eux qui ont voté non en 2009 au projet de Constitution européenne. Et nous changeons de sujet maintenant pour aborder la question de la santé. L'Agence européenne de l'environnement a publié un rapport qui fait beaucoup de bruit. En effet, celle-ci y dénonce la prise en compte tardive des alertes sur les produits chimiques nocifs à la santé humaine. Après être revenu sur les vieux scandales du plomb et de l'amiante, l'agence souligne les nouveaux dangers que sont les hormones de synthèse, les nanoparticules, les OGM, les insecticides, les ondes des téléphones portables ou bien le nucléaire. Pour revenir sur ce dossier, nous avons eu en ligne avant cette émission l'eurodéputée et ancienne ministre française de l'Environnement, Corinne Lepage. Celle-ci revient sur tous ces nouveaux produits qui font peser un véritable danger, selon elle, sur la sécurité des Européens.
On est dans un système dans lequel, lorsqu'il y a des alertes, les industriels obtiennent des organismes d'expertise publique et des gouvernements le fait de multiplier des études et les années d'études et de recherche pour que des décisions de protection soient prises. Ce qui fait que tout prend des décennies, ça se compte en décennies. Donc ce que montre aussi le rapport, c'est qu'on peut avoir des études et des interprétations différentes.
Alors pourquoi ce retard, pourquoi cette inaction? Est-ce qu'on est dans le cas de figure assez classique et souvent dénoncé du type industrie du tabac, qui de plus en plus d'industries qui bloquent les études?
C'est exactement ça. On est dans des cas de figure dans lesquels le monde industriel s'arrange pour tenir secrètes les études qu'il peut avoir le plus longtemps possible, puis ensuite obtenir des pouvoirs publics quand les études finissent par arriver dans le domaine public, qu'elle soit confortée, qu'il y en ait d'autres, avant qu'aucune mesure ne soit prise. Donc, en fait, l'incertitude joue toujours en faveur de l'industrie, jamais en faveur de la santé.
Alors, il y a un cas particulier dans ce rapport qui a été rendu par l'Agence européenne de l'environnement. Ce rapport parle des insecticides. Le chapitre qui est consacré au danger des insecticides systémiques du type Gaucho ou bien Cruiser inclut tout de même une protestation du groupe chimique allemand Bayer. C'est du jamais vu.
Oui, je l'ai vu. Enfin, je connais bien le dossier pour l'avoir un peu vu en France et je pense que l'Agence européenne a raison. Je pense qu'il y a eu des pressions pour que ce rapport ne sorte pas puisqu'il sort avec 2 ans de retard. Donc, c'est encore plus grave que ça. Là où le rapport est très courageux, c'est que d'abord, un, il aborde des sujets dans l'actualité, que ce soit les OGM, les nanotechnologies, par exemple. Et d'autre part, il met les points sur les i quant aux responsabilités.
Derrière ce que vous expliquez, Madame Lepage, vous préconisez finalement, disons, la reconnaissance à l'échelle du continent européen du principe de précaution auquel vous tenez beaucoup.
Ben, il existe dans le droit. Ce que je redemande, c'est que le droit soit appliqué. Et surtout qu'on sorte d'un système d'irresponsabilité, ce que j'appelle l'irresponsabilité organisée. C'est-à-dire que ce système aboutit à ce que, alors qu'il y a des victimes et des coûts pour la collectivité extrêmement importants, il n'y ait jamais de responsable.
Et ce coût de l'inaction des pouvoirs publics n'est jamais chiffré.
Exactement. Et donc, le rapport est très intéressant précisément pour chiffrer le coût d'inaction. Et moi, je mets ça en parallèle, si je puis dire, avec quand même la multiplication des cancers, parce qu'on est en face d'une vraie épidémie. Et Mme Maglet d'hier disait qu'on vivait dans un univers chimique dangereux. Je partage tout à fait cette analyse. Alors, c'est en fait un hymne à une innovation qui serait positive pour l'ensemble de la société.
C'était l'eurodéputée et ancienne ministre française de l'Environnement, Corinne Lepage. Nous allons maintenant en Irlande. Le gouvernement irlandais a entamé en janvier et pour 6 mois sa présidence tournante de l'Union européenne. Dublin est déterminé à trouver un accord sur le budget européen et à mettre en œuvre l'union bancaire. Mais l'Irlande a fixé comme priorité absolue de sa présidence la croissance et l'emploi qui restent les conditions nécessaires au redressement économique du pays. L'Irlande applique depuis 2 ans un plan d'austérité drastique pour réduire son déficit public qui est passé de 30% du PIB en 2010 à 7% prévu cette année. En revanche, la population irlandaise devient allergique à la politique d'austérité de son gouvernement, comme on l'a vu avec des manifestations qui se sont tenues fin 2012. Un reportage à Dublin de Hervé Amoric.
À l'approche de Noël, alors que le gouvernement irlandais se prépare à inaugurer sa présidence de l'Union, la population descend dans les rues dénoncer l'impact d'une nouvelle correction budgétaire sur les retraités et les bas salaires. Au cœur de la manifestation, avec ses 2 enfants, une comptable refuse de payer la nouvelle taxe immobilière, Joanne Pender.
Cette taxe immobilière va ajouter de 400 à 600 euros à nos factures domestiques annuelles, des sommes que les gens n'ont pas. Il n'est pas juste que l'Europe et le gouvernement irlandais nous imposent ces mesures d'austérité. Nous disons non au FMI, non à la Banque Centrale Européenne, non au gouvernement irlandais.
Pour sa part, la ministre irlandaise aux Affaires européennes défend une stratégie qui commence à faire ses preuves, Lucinda Creighton.
Il y a 18 mois, l'économie irlandaise était en chute libre. Aujourd'hui, elle se redresse. Ce qui a permis ce redressement est en grande partie notre capacité à attirer les investissements étrangers.
Malgré une dette à 120% du PIB, les employeurs estiment que l'Irlande retrouve sa compétitivité et sort de la tourmente. L'économiste en chef du patronat irlandais, Fergal O'Brien.
L'environnement économique est loin d'être aussi difficile que ces dernières années. Les familles vont bientôt ressentir cette amélioration. Des opportunités d'emploi, une hausse modeste des salaires par exemple.
Mais le taux de chômage continue de grimper à près de 15% désormais. Un jeune sur 3 est sans emploi en Irlande. C'est pourquoi le Premier ministre irlandais appelle ses partenaires européens à chercher une solution avec lui pour favoriser la croissance et l'emploi. Enda Kenny.
Ce problème doit être au cœur des préoccupations du Conseil. L'Europe doit vraiment réduire le chômage des jeunes, sinon c'est la porte ouverte à la frustration, au cynisme, à la colère et à la montée de l'extrémisme.
Après 36 grèves et de nombreuses émeutes, la Grèce a obtenu de l'Europe une réduction de sa dette et de meilleures conditions de remboursement d'emprunt que l'Irlande, qui de son côté a suivi à la lettre toutes les exigences de l'Union. Aussi, pendant sa présidence, le Premier ministre irlandais compte bien sur un effort de solidarité de ses partenaires.
Nous sommes dans une position différente de celle de la Grèce. Les investisseurs se tournent à nouveau vers notre pays. Un millier de multinationales participent à notre croissance. Mais d'un autre côté, nos collègues européens ont promis de nous aider, qu'il s'agisse du Conseil européen ou de la Banque centrale européenne, et nous comptons bien sur ce soutien. Il est indispensable pour l'Irlande de démontrer qu'elle sera le premier pays de la zone euro à sortir du programme d'aide en 2013.
Que l'Irlande devienne un exemple de redressement est dans l'intérêt de tous les membres de la zone euro. C'est pourquoi ils ont accepté de se pencher à nouveau sur les termes des emprunts irlandais. D'ores et déjà, l'Irlande peut compter sur le soutien du ministre français des Finances. Pierre Moscovici était il y a quelques jours à Dublin.
L'Irlande a fait des efforts très appréciables. J'ai confiance dans le fait que l'Irlande peut être et sera le premier pays qui quittera ces programmes d'ajustement qui ont été décidés au moment de la crise par le Fonds monétaire international et par les Européens. Et si elle le fait, et la France souhaite qu'elle le fasse et croit qu'elle le fera, c'est parce que beaucoup d'efforts ont été faits en matière fiscale notamment, par les agents privés, par les ménages irlandais, et aussi parce que des efforts d'adaptation du secteur public très forts ont été faits. Non, l'Irlande a beaucoup travaillé, et je crois bien travaillé, et cela mérite d'être salué, nous l'avons déjà fait. Je suis ici dans une attitude très amicale à l'égard du gouvernement irlandais.
Diplomatiquement, l'Irlande semble avoir fait entendre sa voix. Quant à son redressement économique, il reste soumis au taux de croissance du reste de l'Europe, car l'Irlande est avant tout un pays exportateur.
C'est la fin de Carrefour Europe. Merci à toute l'équipe et merci bien sûr à vous tous qui nous écoutez. Prochaine édition, la semaine prochaine, et ça sera avec Elisabeth Cadeau. À très bientôt. Yeah.